Bonjour et bienvenue dans Back Channel, le podcast consacré aux coulisses de la politique internationale. Phoenix, vous êtes romancier, spécialiste du renseignement et vous commentez l'actualité stratégique sur l'Ukraine, la Russie, le Proche-Orient et l'Asie. Pour ce cinquième épisode, je voudrais parler des derniers changements annoncés par Vladimir Poutine dimanche dernier.
Bonjour Laura.
Bonjour Phoenix. Alors, dimanche 12 mai, Vladimir Poutine a annoncé plusieurs changements. Le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu, a été limogé, remplacé par Andrei Belousov, et devient secrétaire du Conseil de sécurité en remplacement de Nikolai Patrouchev. Phoenix, vous en pensez quoi ?
Les médias en ont beaucoup parlé le soir de l'annonce, et puis bizarrement, 24 heures plus tard, ça avait disparu du cycle des news. D'abord, Sergueï Shoigu. Il est considéré comme l'un des proches de Poutine. Ils vont faire des parties de chasse dans l'Oural. Shoigu a été mis à défense pendant 12 ans, donc il a été nommé en novembre 2012, mais il n'a aucun passé militaire. C'est d'ailleurs probablement pour ça que quelques jours après la nomination de Shoigu, donc il y a 12 ans, Valery Gerasimov a lui, qui est un militaire de carrière, connu pour ses ouvrages stratégiques notamment, a été nommé chef d'état-major des armées, poste qu'il occupe toujours. Shoigu n'est pas de Saint-Pétersbourg, il a toute la confiance de Poutine. N'oublions pas que Poutine rémunère bien davantage la loyauté que le succès ou la compétence. Quant à Gerasimov, à l'époque, c'était une étoile montante de l'armée russe. Il est connu notamment pour avoir défini les concepts de la guerre hybride. C'était dans un article célèbre d'à peu près 8 pages, publié en février 2013 dans une revue spécialisée russe qui s'appelle « The Value of Science is in the Foresight », ce qui veut dire « La valeur de la science est dans la prévision ». Ce qui évidemment ne ressemble pas vraiment au titre d'un ouvrage sur la guerre hybride, mais pourtant c'est de ça dont ça parle. On se souvient évidemment, pour revenir sur Shoigu et Gerasimov, que Evgeny Prigogine, donc le patron ou le fondateur, si on peut dire, du groupe Wagner, le fameux cuisinier de Poutine, avant sa rébellion du 24 juin 2023, avait passé des mois et des mois à insulter Shoigu et Gerasimov. D'ailleurs, Gerasimov avait été rétrogradé, puis réinstitué dans ses fonctions militaires, puisqu'il est toutefois resté chef d'état-major des armées. Enfin, le bilan, c'est que Shoigu n'est pas un militaire, c'est un politique, que la guerre en Ukraine, du point de vue du Kremlin, évidemment, n'a pas été un succès, puisque, rappelons-le, c'était une guerre qui était censée durer 7 jours, qui devait se solder avec la prise de Kiev et l'élimination du gouvernement en place et dont de Zelensky. On n'en est évidemment pas là, même si les Russes récemment ont repris l'initiative. Donc, il était inévitable, en dépit de la loyauté de Shoigu, qu'à un moment, un changement devait se produire. D'ailleurs, je m'attends à ce que Gerasimov soit remplacé bientôt à son tour.
D'accord, mais ce poste, c'est une punition ?
Pas du tout. C'est le poste de Shoigu, c'est un poste un peu honorifique, mais il va rester, au contraire, encore plus près de Poutine. Donc Poutine ne le punit pas vraiment. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est son remplacement.
Andrei Belousov.
C'est ça. Alors Belousov, on ne le connaissait pas très bien. C'est un économiste de formation, c'est un technocrate. Il a occupé le poste de ministre du développement économique il y a 10 ans, je crois. Et puis plus récemment, il était vice-président du gouvernement russe.
Donc ça fait 2 ministres de la Défense qui ne sont pas militaires.
Oui, mais ici, je crois que Poutine a 2 objectifs. D'abord, il veut absolument lutter contre la corruption. Le prix de la corruption est énorme, évidemment, sur les budgets de la défense russe. N'oublions pas aussi que le 23 avril, l'un des vice-ministres de la défense, quelqu'un qui s'appelle Timur Ivanov, a été arrêté pour corruption et placé en détention dans la prison de Lefortovo, une prison contrôlée par le FSB. Or, Ivanov est réputé comme étant proche de Shoigu. Donc, ça commence à faire beaucoup. Donc, le timing n'est évidemment pas innocent. D'ailleurs, certains avaient prévu le changement longuement attendu à la tête du ministère de la Défense, mais voilà, Poutine a attendu le 7 mai, en fait, il a annoncé ça le 12 mai, donc le 7 mai, c'était la date de l'investiture de son nouveau mandat, et il a pris sa décision.
Donc, ce n'est pas une surprise.
Je pars d'un principe simple. En kremlinologie, tout ce qui n'est pas une surprise est une surprise.
Quel est le deuxième objectif de Vladimir Poutine avec la nomination de Belousov ?
Jeter les bases de l'économie de guerre russe des 20 prochaines années. Rien de moins. N'oublions pas que le budget de la défense a augmenté de 70% à peu près entre 2023 et 2024. Ça vient après une augmentation importante du même budget de la défense entre 2022 et 2023. On estime par ailleurs que le budget en purchasing power parity, c'est-à-dire en dollars en valeur constante de la Russie, est aux alentours de 350 à 380 milliards de dollars, ce qui est évidemment beaucoup plus élevé que les estimations qu'on voit en général dans la presse occidentale, puisque 350 milliards de dollars, c'est à peu près la valeur des budgets de la défense additionnés pour l'Europe. Donc quand on parle de la Russie ayant un PNB 10% plus faible que l'OTAN, etc., il ne faut pas oublier ces chiffres. Hein. On n'est pas du tout dans le rapport de force que les médias ont l'habitude de nous présenter. 350 milliards de dollars, ça fait à peu près maintenant un équivalent de 6% du produit intérieur brut russe. Et de plus, comme je l'avais expliqué il y a quelques mois, la Russie est revenue à un niveau de production militaire assez impressionnant, de façon à, on va dire, essuyer toutes les pertes en matériel qui ont été accumulées depuis plus de deux ans, depuis le début de l'opération militaire spéciale. Par exemple, la production de tanks, elle est de l'ordre, si mes chiffres sont exacts, de à peu près 60 par mois, ce qui veut dire qu'en gros, en un trimestre, la production russe de tanks est équivalente au parc de chars d'assaut en état de fonctionner dans l'armée française. Toutefois, l'industrie de défense russe, même si elle fonctionne à plein régime, elle commence à atteindre ses limites de production. Comme je disais tout à l'heure, il y a la corruption, évidemment. La Russie, en dépit d'une certaine inefficacité des sanctions, la Russie toutefois souffre quand même de l'embargo de certains produits, notamment les composants électroniques qui sont nécessaires pour la production de pas mal de matériel. L'économie, Elle ralentit un peu, elle n'est pas du tout en décroissance, mais elle ralentit un peu, et ce, malgré les recettes pétrolières qui n'ont pas été affectées.
Pourtant, ces sanctions sont allègrement contournées.
Oui, je parlais de l'inefficacité des sanctions, mais c'est juste, hein. C'est parce que, comme vous le dites, elles sont contournées à peu près par tout le monde, les Émiratis, les Turcs, la flotte de commerce grecque, les Chypriotes avec leurs banques, les Chinois et même les Allemands, c'est encore pire. Si vous regardez l'Allemagne, depuis le début des sanctions, les exportations des entreprises allemandes à destination du Kazakhstan, qui est donc évidemment frontalier avec la Russie, pays d'Asie centrale, ont été multipliées par 3,6. Celles à destination de l'Arménie par 2,8. Et c'est pareil pour beaucoup des pays frontaliers de la Russie et surtout pour tous les pays d'Asie centrale. Mais les États-Unis récemment sont passés à un mode plus dur. Ils chassent les briseurs de sanctions, comme on les appelle, ce sont les sanction busters. Et par exemple, la Chine fait très attention de façon à ne pas être visée elle aussi par les sanctions américaines.
Et Patrouchev ?
Alors, Nikolai Patrouchev, pour revenir sur lui, c'est lui aussi très proche de Poutine. Ils se connaissent depuis au moins 30 ans. Ils ont tous les deux, si ma mémoire est bonne, commencé à Saint-Pétersbourg, FSB, dans les années 70. Patrouchev est d'ailleurs un ancien directeur du FSB. Il a aussi et souvent été pressenti comme le successeur de Poutine, ce qui d'ailleurs veut dire qu'il ne le saura pas. C'est un conspirationniste né, hein, ce qu'on appelle un faucon. Paraît-il d'ailleurs, la petite histoire, c'est qu'il y a 30 ans, il aurait même préparé un projet à base de télépathes qui était censé analyser les pensées des hauts fonctionnaires américains. Il y a même eu une histoire là-dessus sur Madeleine Albright, qui était secrétaire d'État de l'administration Clinton. Donc, pour lui, ça pourrait ressembler un peu plus à un limogeage, mais ce n'est pas vraiment le cas. N'oublions pas, par exemple, que le fils de Patrouchev est vice-premier ministre depuis peu, et récemment, on vient d'apprendre que Patrouchev avait été nommé aide personnel de Poutine, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire, de même que Alexei Dumin. Or, Dumin, on s'en souvient, c'est lui aussi un très proche de Poutine. Alors, il est beaucoup plus jeune que Patrouchev et Poutine. Il a une bonne quarantaine d'années. C'est l'ancien garde du corps de Poutine, c'est l'ancien gouverneur de la province de Toula. Il est aussi pressenti comme un possible successeur de Poutine, ce qui signifie...
qu'il ne le sera pas.
Je ne sais pas, dans son cas. On raconte d'ailleurs qu'il aurait sauvé la vie de Poutine il y a pas mal d'années en déchargeant son pistolet automatique, son Makarov, au pied d'un ours, de façon à le faire fuir. D'ailleurs, c'est quand même gentil, il n'a pas tué l'ours, d'après la légende.
Et le timing de la visite de Poutine à Pékin ?
Tout est lié. Le changement juste après l'investiture de Poutine, bon, ça c'est classique en Russie, hein. N'oublions pas que la Russie reste un pays très protocolaire. Le changement intervient aussi alors que, on en parle tous les jours, l'offensive russe sur Kharkiv, donc la deuxième ville d'Ukraine, et une ville russophone d'ailleurs, qui est juste à la frontière, cette offensive semble avancer. En même temps, vous avez comme les Russes élargissent le front en s'attaquant à Poutine, puisqu'évidemment, ils bénéficient d'un énorme avantage numérique en hommes, mais aussi en matériel et en munitions. Paraît-il que les Russes auraient repris Robotyne. Or, Robotyne, c'est un village vers le sud qui était vu comme l'un des symboles des premiers succès de la contre-offensive ukrainienne l'année dernière, en 2023. Donc, il y a 30 000 soldats qui sont engagés. Et évidemment, les Ukrainiens attendent avec impatience l'aide. Donc, on est dans une situation extrêmement tendue, mais plutôt favorable à la Russie hein, depuis 6 mois. Tout ça, ça vient aussi juste après le vote du package de 95 milliards de dollars, dont 61 pour l'Ukraine, qui, encore une fois, rappelons-nous, ça par contre c'est positif, on ne s'y attendait pas il y a quelques mois, je pensais d'ailleurs que c'était fini et que l'Ukraine ne recevrait peut-être plus d'aide des États-Unis. Ça intervient alors que la Géorgie vient de passer une loi très très controversée par le Parlement, qui est la loi de l'agent étranger, hein, qui en fait est vue comme une première étape avant le passage de ce pays du Caucase sous influence russe. Poutine veut se donner les moyens économiques d'une confrontation généralisée avec l'Ouest qui pourrait durer 10, 20 ou 30 ans. L'objectif est clair, c'est pour ça d'ailleurs que je parle de nouvelle guerre froide. Beaucoup de gens ne le voient pas. Pour moi, c'est comme si on était à peu près entre 1947 et 1949, ce qui veut dire qu'on peut encore s'attendre à 10 à 15 ans d'escalade des tensions avant peut-être une stabilisation et un nouveau statu quo, une sorte de nouvel ordre mondial.